Donc, nous sommes ici avec Monsieur Alioune Tine, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali. Monsieur Tine, vous demandez à l'armée malienne de libérer tous les dirigeants détenus à la suite du coup d'État. Avez-vous des nouvelles de l'ancien président Bandao et de son ancien premier ministre Mokhtar Wane?
Les seules informations que nous avons concernant le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Wane, c'est qu'en réalité, ils sont en résidence surveillée, qu'ils ne sont pas libres de leur mouvement et qu'il est difficile pour les gens même de les voir. Donc, nous demandons à l'armée, vraiment aux autorités maliennes actuelles, de libérer immédiatement et sans condition le président Bandao, le premier ministre Mokhtar Wane, pour qu'ils soient totalement libres de leur mouvement. Parce qu'on ne peut pas effectivement priver quelqu'un de sa liberté sans lui expliquer pourquoi. Effectivement, quand il faut le faire aussi sur des bases juridiques claires et nettes. Mais sinon, on est dans une situation de détention arbitraire. Pour un état de droit, c'est inconcevable.
Vous parlez de détention arbitraire, mais le président Bandao et son ancien premier ministre sont toujours en résidence surveillée après avoir été transférés du camp militaire de Kati, leur domicile, la semaine dernière. Du moment que vous demandez leur libération, est-ce à dire qu'ils n'ont aucune liberté de mouvement à part les mouvements qu'ils peuvent faire dans leur domicile?
Absolument. D'après les informations que nous avons, en situation de résidence surveillée, ça veut dire en réalité que vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes surveillé, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous n'êtes pas en liberté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas être en liberté? C'est inconcevable. D'ailleurs, la CEDEAO, le sommet a demandé qu'on les libère immédiatement. L'Union africaine a demandé également la libération de tous les détenus. Je pense que l'armée, les autorités maliennes actuelles doivent entendre raison. C'est extrêmement important, effectivement, que l'état de droit continue à fonctionner correctement au Mali. Ce n'est pas le cas avec ces arrestations. Il y a 3 fonctionnaires aussi qui sont détenus, toujours à Kati. Il faut qu'ils soient libérés. Et puis, il est difficile d'ailleurs au département des droits de l'homme de la MINUSMA de rendre visite effectivement à ces détenus. Difficile pour les avocats de rendre visite à ces détenus. Difficile également pour la Commission nationale des droits de l'homme du Mali de rendre visite aux détenus. Ce n'est pas normal. Il faut que ces détenus soient accessibles à leurs avocats, à leurs familles et également aux institutions nationales et internationales des droits de l'homme. C'est ça la norme.
Justement, en parlant de ces 3 hauts responsables militaires détenus arbitrairement, de qui s'agit-il exactement?
Alors, je voudrais dire que ce sont des collaborateurs assez proches du président Bandao et également du ministre de la Défense qui a été également libéré. Donc, ce sont des collaborateurs qui, en ce moment, sont en détention à Kati et qui sont en train, effectivement, de subir un interrogatoire et qui ne sont inaccessibles ni à leurs avocats, ni à leurs familles, et encore moins aux responsables de l'administration chargée des droits humains et à la Commission nationale des droits de l'homme. Ce n'est pas normal dans un état de droit.
Donc, à ce stade, les équipes de l'administration, de la mission onusienne, n'ont pas accès à ces personnes détenues ou assignées à résidence surveillée?
De toute façon, la MINUSMA n'a pas encore accès effectivement aux personnes qui sont détenues à Kati. Ça, c'est très clair. La Commission nationale des droits de l'homme non plus. Mais je sais effectivement qu'il y a eu le barreau qui a rendu visite à Bandao, mais également aussi à la Commission nationale des droits de l'homme. Mais ceux qui sont détenus à Kati sont inaccessibles.
Plus largement, vous soutenez l'appel lancé dimanche par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en faveur de l'organisation de nouvelles élections présidentielles en février 2022 et d'un retour à l'ordre constitutionnel. Mais certains observateurs l'ont qualifié de décision à minima. Êtes-vous satisfait par les décisions d'Accra?
Écoutez, les décisions d'Accra sont des décisions, moi, que je considère comme pragmatiques. Je pense que les chefs d'État n'ont pas voulu ajouter au facteur de vulnérabilité vraiment du Mali. Il y a la situation sécuritaire qui est là, il n'y a pratiquement plus d'institutions, sinon seulement l'armée et la transition. Je pense que les gens ont fait le service minimum par pragmatisme et par réalisme aussi. Mais le fait quand même que le Mali soit suspendu de toutes les instances de la CEDEAO est quand même significatif. Même si c'est symbolique, quand même, on a sauvé l'essentiel. On a sauvé l'essentiel. Mais quand même, faire un embargo économique sur le Mali, c'est vraiment s'attaquer à un État qui est quand même déjà très, très affecté dans ses institutions, dans son économie, dans sa sécurité. Pour Accra, je trouve effectivement que la position qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement, c'est une position sage. Je soutiens effectivement cette position à la fois de l'Union africaine et de la CEDEAO, sans ambiguïté.
À ce sujet, après la CEDEAO, l'Union africaine a suspendu hier mardi à son tour le Mali. Et après deux coups d'État au Mali en l'espace de 10 mois, qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale, M. Tine?
Ce qu'on attend de la communauté internationale aussi, c'est de continuer à soutenir les institutions maliennes. Parce que le Mali a besoin, à l'heure actuelle, de continuer à être accompagné. Le Mali, c'est une digue. Et c'est extrêmement important que cette digue continue à résister. Et pour cela, il faut que la communauté internationale ne lâche pas le Mali. Vraiment, c'est un appel que nous lançons à tous les partenaires internationaux du Mali. Un appel que nous lançons également à la CEDEAO qui a décidé d'accompagner le Mali jusqu'à l'élection du nouveau président de la République. Je pense que c'est la décision la plus sage. Et également, c'est une garantie de sécurité pour le Mali et pour toute la sous-région aussi.
Dernière question, professeur Tine. La solution passe par les Maliens forcément. Aujourd'hui, quel est votre appel aux responsables politiques, militaires, de la société civile malienne, notamment pour un dialogue profond et la quête d'une paix durable dans ce pays?
D'abord, aux responsables militaires, à la responsable et aux autorités de la transition, également à tous les partis politiques de l'opposition comme du pouvoir. À la société civile, c'est bien sûr de considérer que le Mali est dans une situation extrêmement vulnérable qui appelle un sens très élevé des responsabilités de la part de tous les citoyens, qui appelle beaucoup de retenue et qui appelle aussi un dialogue qui soit un dialogue sincère, un dialogue profond pour essayer de refonder les institutions du Mali. D'aller effectivement à la préparation d'élections transparentes, d'élections démocratiques, d'élections qui permettent effectivement d'avoir un leader légitime, reconnu, et également d'avoir des institutions qui soient des institutions fortes, permettant aux Maliens de relever les défis de la sécurité et les défis du développement.
Monsieur Tine, merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci. Au revoir, Alpha.